BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir l'association Les Yeux Ouverts, présentée par Annick Patin. Alors tout d'abord, bonjour à vous, comment allez-vous ?
Moi, je vais très bien, merci.
Alors, avant de parler de l'association du coup des Yeux Ouverts, on va parler un petit peu de vous. Annick, présentez-vous, qui êtes-vous pour nos auditeurs ? Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai commencé cette association officiellement en 2002, donc ça fera 20 ans cette année. Tout simplement parce que j'ai enfin commencé à voyager, et à voyager avec peu de fonds et beaucoup de bonnes intentions. Et en ouvrant les yeux sur ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte que je pouvais me rendre utile. C'est comme ça que j'ai démarré des actions et que j'ai créé une association pour que d'autres personnes se mouillent avec moi.
Et c'est aussi avec un petit peu votre historique professionnel, puisque vous êtes infirmière, c'est ça ?
Voilà, je suis infirmière et je suis maman. Donc je me suis surtout intéressée aux enfants et également à l'accès aux soins pour les personnes les plus défavorisées.
Pourquoi est-ce que vous avez fondé Les Yeux Ouverts ? C'est vraiment lors de voyages où vous avez vu un petit peu ce qui se passait ailleurs qu'en France ?
Voilà, c'est simplement voyager en écarquillant bien les yeux sur ce qui se passe et s'apercevoir que d'abord on est très nantis, on n'a vraiment pas trop de raisons très très sérieuses de se plaindre par rapport à une grosse population beaucoup plus défavorisée dans des pays en voie de développement. Et puis, en ouvrant les yeux et en voyant ce qui se passe, on s'aperçoit que on peut faire quelque chose, et on peut faire quelque chose avec des petits moyens. Petits moyens pour nous, mais qui sont énormes pour eux.
On peut faire quelque chose en agissant sur place directement dans les pays et en agissant aussi depuis chez nous, entre guillemets.
Bien sûr. Alors, en agissant sur place, en s'intéressant justement aux enfants, à leurs conditions de vie, à leurs possibilités ou non de scolarisation, par exemple, parce qu'on sait que un enfant éduqué va pouvoir évoluer et faire évoluer son entourage. Même chose pour les mamans. On peut aider les mamans qui sont souvent seules pour ne pas les retrouver dans la rue à mendier pour nourrir leur famille. Et puis, soigner les gens. Là, c'est un petit peu au fur et à mesure, quand on découvre des situations insolubles sur place, on donne le coup de pouce et puis on peut sauver des gens comme ça. C'est ce qui s'est produit toutes ces 20 dernières années. Et puis ici, on peut s'impliquer. On a une très très bonne équipe ici qui s'implique bénévolement, aussi bien pour trouver des fonds, aussi bien pour organiser des manifestations, aussi bien pour nous soutenir et puis pour diffuser les informations justement qui permettent un peu de prendre de l'ampleur.
Et aussi, en parlant d'ici, du coup, il y a tout ce système aujourd'hui de parrainage d'enfants dans ces lieux auxquels. Sur lesquels vous êtes implanté.
Voilà, oui. Alors, on agit de différentes façons. Pour les enfants, on a mis en place des systèmes de parrainage. Donc, quand on trouve un parrain, le parrain va, moyennant une somme qui, pour nous, n'est pas trop énorme, c'est 160 euros par an, mais avec la déduction fiscale, ça revient à 54 euros. Donc, avec 54,50 euros par an, on change la vie d'un enfant. On le met à l'école, on lui donne une perspective d'avenir différente. Et on peut le soutenir jusqu'à la fin de sa scolarité, jusqu'à ce qu'il entre dans la vie active. On agit encore différemment également, parce qu'on ne trouve pas toujours suffisamment de parrains. Donc on peut aussi mettre des enfants à l'école avec simplement un don de 20 euros par an, donc avec déduction fiscale de 66%. Vous faites le calcul vous-même, je ne l'ai pas fait. ça ne fait pas très élevé. Et avec ces 20 euros par an, on arrive à mettre un enfant à l'école, en particulier à Madagascar, en lui payant son inscription, ses frais de fourniture scolaire, son uniforme, etc. Et souvent, ce sont des candidats au parrainage par la suite, parce que ce sont des enfants qui, sinon, auraient traîné dans la rue et en tout cas n'avaient pas accès à l'école. Donc, c'est deux façons déjà d'aider les enfants. Ensuite, pour soigner les gens, alors on a fait différentes choses aussi. D'une part, on intervient en urgence pour des situations qu'on nous signale. Et d'autre part, on a créé un dispensaire de brousse dans une zone dangereuse et difficile de Madagascar, dans le Melaky, une zone qui est vraiment oubliée des autorités. Et on a monté ce dispensaire tout en étant partenaire des autres structures locales, mais qui sont complètement démunies. Donc voilà, ça c'est pour soigner les gens. Et sinon, ben, on a aussi aidé les mamans, en particulier beaucoup de mamans seules, à avoir du travail, à ne plus mendier, en créant des ateliers. On a créé 2 ateliers, à la fois de couture, d'artisanat, de tapisserie, enfin beaucoup de choses, pour qu'elles puissent gagner leur vie et ne plus se retrouver dans la rue à mendier.
Voilà. Parce que c'est, par exemple, sur des pays comme Madagascar, l'accès au travail pour les femmes reste compliqué aujourd'hui?
C'est dans ces pays, comme en Afrique, hein, comme en Côte d'Ivoire, c'est un petit peu la débrouille. Hein. Les femmes sont effectivement reléguées en général aux tâches les plus ingrates. Hein, finalement, elles lavent toujours le linge à la main. La plupart, on me dit, quand on me donne la fiche pour inscrire un enfant, on me dit la maman est lessiveuse. Bon, elle est lessiveuse, ça veut dire qu'elle va tous les jours prendre le linge des gens un peu plus riches et qu'elle va laver ça dans la rivière. Si on peut leur donner des conditions de vie plus attrayantes et des moyens de vivre, de gagner leur vie d'une façon plus valorisante, on intervient de cette façon-là. C'est vrai que les femmes qui au départ n'ont pas forcément été scolarisées, encore moins que les garçons, ont beaucoup plus de difficultés de trouver le moyen de s'en sortir. Quoi.
Pour en revenir à ce dispensaire dont vous avez parlé, qui est dans une région du coup dangereuse, une région compliquée. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que cet endroit-là, il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas encore d'eau, d'accès à l'eau ici dans le dispensaire.
Alors, le dispensaire est situé de l'autre côté d'un fleuve qui est infesté de crocodiles. Quand c'est la saison des pluies, les crocodiles passent au-dessus du petit pont qui a été créé un peu trop bas d'ailleurs. Donc, de l'autre côté du fleuve, il y a une petite ville, un bourg qui s'appelle Morafenobé, et où il y a l'électricité et l'eau qui ont été installées d'ailleurs par des ONG. Mais nous, on a mis le dispensaire de l'autre côté parce que l'autre côté draine toute une région qui n'a ni eau ni électricité et où les gens sont complètement
oubliés
et encore plus oubliés quand c'est la saison des pluies et que justement les crocodiles passent par-dessus le pont. Voilà. Donc, on a créé ce dispensaire qui fonctionne depuis plusieurs années, avec des petits moyens, mais qui fonctionne bien, avec la bonne volonté de tout le monde. Et on est en train de se battre maintenant pour arriver à l'électrifier et apporter l'eau également.
Et pour en revenir également du coup sur ce dispensaire, il y a tout ce travail du coup autour de Madagascar avec cet accès aux soins et cet échographe que vous avez réussi
oui.
fournir du coup
oui,
et qui
là,
ne peut pas être encore au dispensaire du coup.
Alors là c'est une grande joie, c'est une grande victoire pour nous parce que ça fait des années que je pleurais en disant il faudrait un échographe là-bas parce que la petite sage-femme elle peut pas faire des diagnostics précoces et les mamans et on a encore eu un deuil catastrophique l'année dernière d'une maman et de ses 2 bébés. Les mamans décèdent parce qu'on n'a pas décelé assez tôt que c'était des grossesses à risque. On ne les a pas transférées assez vite à 200 ou 300 kilomètres de là, moyennant des heures de taxi-brousse pour qu'elles puissent avoir une césarienne et s'en sortir vivantes. Donc ça faisait des années qu'on se battait pour essayer d'obtenir des échographes. On en a cherché d'occasion, on n'a pas trouvé les solutions. Et finalement, grâce à des actions qu'on a mises en place en fin d'année dernière, là, vraiment avec toute l'équipe, on a enfin réussi à acheter un échographe qui vient d'être livré avant-hier. Et hier, il y a eu les premières échographies, je reçois les premières photos là maintenant, c'est une grande victoire pour nous. Alors effectivement, l'échographe pour l'instant est en dépôt à l'hôpital le plus proche, puisque nous on n'est pas électrifié. Et il reviendra au dispensaire après, puisque c'est une sage-femme qui tient ce dispensaire. Et on a fait former la sage-femme ces 3 derniers mois. Atananarive, elle a reçu une formation pour savoir manipuler l'échographe et interpréter ce qu'elle voyait.
Et actuellement, l'échographe, du coup, il est à l'hôpital. Et si je ne m'abuse, le médecin qui gère un petit peu tout ça, c'est quelqu'un qui avait été parrainé à la base par l'association.
Oui, alors Manche, c'est un jeune garçon, un jeune médecin qu'on a parrainé depuis l'enfance. Il ne pouvait pas aller à l'école. C'est un orphelin d'une famille de 11 enfants. 9e d'une famille de 11 enfants. Ses grands-parents ne voulaient même pas qu'il aille à l'école parce qu'il fallait qu'il travaille au champ. Et lui, il en voulait. Ben aujourd'hui, les médecins et les médecins référents de nos actions médicales. Et c'est lui qui a mis en place la mission qui est actuellement à Morafenobé, justement, pour délivrer cet échographe. Et il est parti là-bas avec un chef de service de gynécologie obstétrique de Tananarive pour, justement, former le médecin local et accompagner la sage-femme dans l'installation de cet échographe. Donc pour nous, c'est vraiment une grande victoire. Et surtout, la victoire de voir que les jeunes qu'on a aidés prennent le relais et animent eux-mêmes les aides qu'on fait dans leur pays.
Oui, puisque ce côté-là, du coup, avec l'association qui fête ses 20 ans cette année, du coup, il y a suffisamment de recul aujourd'hui pour voir les premiers enfants, les premiers jeunes que vous avez aidés et de voir où ils en sont aujourd'hui. Et beaucoup sont devenus des référents sur place qui sont toujours impliqués.
Complètement, complètement. C'est eux maintenant qui, même aux Zanskar dans l'Himalaya, c'est une ancienne jeune fille parrainée qui a pu accéder à des études universitaires, ce qui était déjà exceptionnel aux Zanskar. Et on en a actuellement, on en a une qui termine une formation d'ingénieur en architecture. On en a une autre qui est infirmière maintenant et qui fait des études supérieures dans le domaine de la santé pour pouvoir avoir un poste important. Donc ce sont ces jeunes femmes qui autrefois n'avaient même pas accès à l'école qui vont faire avancer leur pays. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Ça faisait vraiment partie de nos objectifs. Ce sont eux qui prennent les choses en main.
J'imagine que du coup, au cours de ces 20 dernières années, vous avez pas mal d'histoires, d'expériences marquantes et qui vous ont touché.
Alors, c'est vrai que je partage, parce que je suis très bavarde, donc je partage mes histoires, surtout avec mes équipes, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des histoires magiques tout au long de ce parcours, et j'en ai fait partager sur place à ceux qui m'ont accompagné. D'ailleurs, les gens peuvent aller jeter un coup d'œil sur le site qui s'appelle lesyeuxouverts.org, sur lequel vous allez retrouver toute l'historique de ces 20 ans, et vous allez retrouver les récits de voyage, vous allez retrouver les comptes rendus des réunions. Donc on anime des réunions assez régulièrement, à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, ça dépend, enfin bon. Et on fait des comptes rendus bien détaillés, au jour le jour, avec les informations des différents sites.
Puisqu'il y a ce côté aussi pour ceux qui parrainent, etc., les différents jeunes, il y a un véritable suivi quasiment au jour, peut-être pas non plus au jour le jour, mais un vrai suivi.
Voilà, pour Madagascar, où c'est vraiment le gros pôle, là on arrive à avoir les bulletins scolaires tous les trimestres. On a déjà les bulletins scolaires, les nouvelles des enfants. On est informé par les référents parce qu'on a monté des équipes sur place, bien sûr, avec des locaux. Et on a des nouvelles par les référents quand il y a un problème de santé, quand il y a quelqu'un qui a besoin de lunettes, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'être opéré. Enfin, on est vraiment informé. Les parrains ne sont engagés que pour le parrainage, mais on intervient en dehors pour les soins et puis pour les urgences.
Abordons un petit peu le côté chiffres maintenant, oui. Pour l'association, pour savoir à quel point est-ce qu'elle est impliquée déjà, le nombre de parrainages qu'il peut y avoir au sein de l'association.
Alors, l'année dernière, c'est fluctuant parce qu'il y a des enfants qui terminent leur scolarité, on en prend des nouveaux, etc. Je dirais que pour l'année dernière, on a parrainé 135 enfants, mais on a également, donc dans ces 135 enfants, on a quand même 23 universitaires, tous pays confondus. On a en plus, avec une autre action, donc je mets un enfant à l'école, 158 enfants qui sont mis à l'école tous les ans. Minimum 158, et tous les ans on rallonge un peu la sauce. Alors ça, c'est des dons à part qui n'ont rien à voir avec les parrainages. Et c'est important parce que ces enfants, on leur offre autre chose que la rue. Et puis souvent, ils découvrent un autre monde et ils s'accrochent. Alors certains sont candidats au parrainage après. Mais au moins, en attendant, on les a déjà aidés à découvrir autre chose. Et on a une maison d'accueil qui a été créée il y a maintenant 6 ans. À Antsirabe, par le vice-président de l'association à Madagascar, qui est un Zanatan, ce qu'on appelle un Zanatan, c'est-à-dire que c'est un Français né à Madagascar et il est retourné à sa retraite à Madagascar pour aller aider le pays à se développer à sa façon. Et donc, lui étant sur place en permanence, on a enfin pu réaliser il y a 6 ans cette création de maison d'accueil pour les enfants de la rue, parce qu'il y avait besoin d'avoir quelqu'un sur place qui surveille tout le temps l'évolution. Donc on a une trentaine d'enfants en permanence qui sont accueillis le matin. Alors au début, c'était des enfants de la rue qui étaient en guenilles. Hein. Maintenant, on les a habillés, ils sont nourris, ils sont propres. On a veillé à ce que les mamans aient du travail, parce qu'on a créé également des ateliers de travail pour les mamans. Et ces enfants, quand ils entrent à l'école, ils sont premiers de la classe, parce qu'ils ont déjà été préparés. Quoi. C'est la pré-maternelle, en quelque sorte.
Il y a vraiment tout ce travail, encore une fois, du début à la fin.
Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vrai qu'on est récompensé par les sourires des enfants et la réussite de ceux qui s'en sortent bien. Quoi.
Mais ça doit être extrêmement gratifiant de voir tous ces gamins sortir de la mouise, on va dire.
Oui, et puis pour vous donner un exemple de ce qui me fait très très plaisir, j'ai une de mes anciennes filleules, moi je parraine personnellement toujours 5 enfants, j'ai 5 enfants moi-même, donc je me suis dit c'est ma limite, j'en parraine 5 en plus. J'ai une de mes anciennes parrainées qui m'a surnommée la maman universelle. Et j'avoue que ça a fait le tour des différents sites et on m'appelle la maman universelle aussi bien aux Oscars qu'en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Et quelque part, ça me fait plaisir, c'est sûr. Si on a pu apporter quelque chose à tous ces enfants. Mais il y a toute l'équipe avec. Hein. Sans tout le monde, sans les donateurs, sans l'équipe, les parrains, j'aurais rien pu faire. Hein.
Il y a différents territoires, du coup, comme on l'a dit, donc la Côte d'Ivoire, Madagascar, et puis le Zanskar, qui lui c'est en Inde, au niveau de l'Himalaya. J'imagine que les conditions d'accès, par exemple, si on veut y aller avec des parrains, des filleuls, c'est un peu plus compliqué ces conditions d'accès pour aller là-haut.
Alors en été non, et c'est même plutôt à la mode, ça devient la mode parce qu'il y a beaucoup de trek à faire. L'Himalaya, c'est absolument magnifique. Et donc là, il y a tout un groupe qui vient de partir d'une autre association dont je suis membre depuis plus de 30 ans. Eux, ils parrainent, ils s'occupent d'une école. Ils ont créé la plus belle école du Zanskar. Et donc, ils sont partis là en groupe. Non, c'est pas, en été, c'est pas un problème. Nous, on est riches finalement par rapport à eux. On peut se payer un 4x4 et partager les frais d'un 4x4 pour eux. Bon, c'est difficile. Hein. Si on y va qu'en voiture, on en a pour quelques jours pour y arriver.
Ouais.
Et on gravit une des plus hautes routes du monde, Carreau Sable, en passant des cols au-dessus de 5000 mètres. Moi, j'ai dû le faire, 5-6 fois déjà.
Et j'entraîne, c'est fou quand même. Hein.
J'entraîne les gens à le faire parce que c'est beau. Et ce sont des voyages qui marquent. Mais sinon, on peut aller depuis Delhi, on peut aller directement... En avion, après, il faut rester un petit peu sur place pour s'acclimater à l'altitude.
Oui, bien sûr.
Et après, il y a encore deux jours de 4x4 pour arriver dans la vallée.
Donc,
mais en été, c'est tout à fait possible. En hiver, c'est plus délicat.
Oui, j'imagine.
Je l'ai fait. J'ai le projet de le refaire.
Ça vous arrête pas.
Et là, le seul moyen d'entrer ou de sortir entre janvier et mars, c'est de franchir, de parcourir le fleuve gelé. Vous avez peut-être vu des reportages à la télé,
oui,
avec Nicolas Hulot et compagnie, qui est passé après moi d'ailleurs. Je l'ai fait une année pour le retour et j'ai l'intention de le refaire pour l'aller prochainement. Mais ça veut dire après qu'on est bloqué facilement jusqu'en fin mai et juin, quand la route va être un peu dégelée. Et c'est pas sûr.
Donc quand on y va, c'est vraiment pour du long terme, quand
voilà,
on part l'hiver.
Si on y va en hiver, on n'est pas sûr de pouvoir rentrer.
Avant de conclure cette émission, je voulais qu'on aborde cette chose, puisque depuis les deux dernières années, on connaît cette crise sanitaire. Mais vous me disiez que cette crise, finalement, elle vous avait pas tant impacté que ça au sein de l'association.
Ben, disons qu'on n'a pas pu faire de réunion, évidemment. Moi, je suis partie plusieurs mois outre-mer, hein, pour aller porter mon aide à l'hôpital de Mayotte. Donc on s'est tenu au courant par Internet, via Internet, on a fait quand même... Mais les actions ont continué sur le terrain, sur les terrains. On a donné des coups de pouce pour qu'ils puissent se procurer ce qu'il fallait pour se protéger. Je dirais que on a continué à agir toujours aussi efficacement. Il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau Covid dans les différents pays où on agit. Enfin, en tout cas, pas autant qu'on a voulu l'annoncer à chaque fois. et donc, c'est ça. Non, les seules choses, effectivement, nous, pratiquement, ben, on a fait rentrer moins d'argent parce qu'on n'avait pas fait de vente, hein, évidemment. Toutes les ventes étaient annulées.
Oui, tout ce qui était marché, etc.
Voilà, les marchés, les expositions, toutes ces choses-là, on n'a pas pu faire. Donc, on avait perdu sur le budget entre 2019 et 2020, on a perdu 10 000 euros à peu près. Mais on a des adhérents fidèles. Et quand on a vu à la fin de l'année qu'on aurait du mal à boucler le budget et faire face au parrainage et à nos engagements, en fait, on a envoyé un appel à dons et les gens ont répondu. Donc, on a réussi.
Et donc là, depuis 2020, tout va bien.
On remonte parce qu'on a fait beaucoup de ventes, là, nos derniers Noëls. Là, tout, on a fait pas mal de ventes. Je crois qu'on a fait rentrer plus de 5000 euros pour démarrer l'année. Donc, on a démarré l'année sans problème et à ce jour, on est en situation correcte. Quoi. on est toujours demandeur, hein, faut pas croire, on n'a pas
bien
trop.
Bien sûr.
plus on a et plus on fait. Donc on va pas crier victoire pour tout parce que c'est un travail permanent et donc on est toujours preneur de dons. On va participer à différentes manifestations. Là, on sera au village des associations de Vernon, à Saint-Marcel. On sera à la fête de la pomme. Le 10 juillet, on sera à Garennes-sur-Eure avec les Pierrots de la Vallée. On fera le salon automnal à Saint-André. On fera le marché de Noël à Vernon. Enfin bon, chaque fois qu'on peut,
on vous voit.
on est là et on a de très très belles choses à vendre parce que on fait venir de la vanille fraîche de Madagascar, du poivre sauvage. On a des bijoux qui nous viennent de Delhi, qui sont magnifiques. On a de l'artisanat de Madagascar. C'est tout un travail là aussi, mais on arrive à avoir des très jolis stands et les gens sont très contents en général. Et nous, on est très contents de vendre.
pour conclure cette émission, on rappelle, pour avoir toutes les informations sur l'association, on peut les avoir facilement sur Internet, c'est ça?
Oui, sur le site. Voilà.
Le site Internet, donc vous cherchez juste association Les Yeux Ouverts et vous trouverez assez facilement.
Org, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Les Yeux Ouverts quelque part sur Internet, mais c'est .org. Et puis sinon, si vous voulez nous écrire, vous écrivez sur Les Yeux Ouverts 2002, l'année de la création, @yahoo.fr. Et vous aurez des réponses.
Eh bien, merci beaucoup, Annick Patin.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu nous présenter l'association Les Yeux Ouverts. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.